Chapitre 23. Au début de ce chapitre, nous trouvons Paul devant cette auguste cour. Nous nous serions attendus à ce qu'il prononce le discours le plus éloquent et le plus persuasif de sa vie. Mais nous ne trouvons qu'un témoignage réduit à son minimum et à une confusion maximale. La première remarque de Paul est mal accueillie, bien qu'elle ait été vraie. Nous acquérons et gardons une bonne conscience en exécutant sincèrement et rigoureusement tout ce que cette conscience nous dicte. Le zélateur, à la conscience obscurcie ou pervertie, commettra les actes les plus outrageants pour préserver sa bonne conscience. C'est ainsi que Paul agissait avant sa conversion. Depuis celle-ci, il avait suivi avec sincérité les avertissements de sa conscience, maintenant éclairée et redressée. Cela nous montre très clairement que la conscience n'est pas en elle-même un guide sûr, elle doit être éclairée par la parole de Dieu. Elle n'aura de valeur que dans la mesure où elle sera contrôlée totalement par la parole. Irrité par cette déclaration franche, le souverain sacrificateur commande qu'on frappe Paul sur la bouche. Il transgresse ainsi la loi qui stipule qu'un accusé ne devait pas être frappé avant qu'un jugement juste ait été rendu. Et alors encore la manière de procéder était indiquée. Deutéronome 25, versets 1 à 3. Paul réagit vivement à cette injustice manifeste. Il agissait à bon droit. Toutefois, il n'était pas admissible de s'adresser en ces termes au souverain sacrificateur. Le Sanhédrin avait été convoqué précipitamment et d'une façon informelle. Aussi, probablement, rien dans son habillement ne permettait-il de le distinguer. Mais Paul reconnaît immédiatement son erreur lorsqu'elle lui est signalée et il cite le passage qui la condamne. Il ne pouvait pas imiter son Seigneur en demandant comme lui avec une pleine assurance « Qui d'entre vous me convainc de péché ?» Paul recourt alors immédiatement à un stratagème très astucieux. Il se présente comme un pharisien mis en jugement pour l'espérance de la résurrection. Il était sans aucun doute pharisien de naissance. Et par la première éducation qu'il avait reçue, et la résurrection, sans aucun doute également, est à la base même de l'Évangile. Sa déclaration produit l'effet attendu. Les pharisiens sont gagnés à sa cause, alors que les sadducéens s'opposent violemment. Ils étaient les uns et les autres des fanatiques, jugeant de toutes choses selon le point de vue de leur parti respectif. Les pharisiens, supposant qu'il était l'un des leurs, basculent en sa faveur. Ils n'ont que faire de la vérité et de la justice. Seul leur parti compte. N'est-ce pas une pratique très courante aujourd'hui? Les chrétiens n'en sont pas épargnés. Ne méprisons donc pas l'avertissement qui nous est donné ici. Tout au long du livre des Actes, les Sadducéens se manifestent comme les principaux opposants de l'Évangile. Leur vue matérialiste qui les amène à nier la résurrection n'y sont pas pour rien. C'est ici la dernière fois que nous les trouvons. La tournure subite des événements en faveur des pharisiens les remplit d'une telle fureur qu'ils se livrent à des actes de violence physique et Paul est presque mis en pièces. Leurs excès se retournent contre eux, car ils forcent le chiliarque à intervenir. Et pour la seconde fois, Paul est soustrait au déchaînement de sa propre nation. Le verset 11 est de toute beauté. Il ne nous est rien dit des sentiments de Paul, mais le message du Seigneur « Aie bon courage » laisse supposer qu'il était découragé. Il semble bien que cet épisode de Jérusalem, dans son ensemble, se situe au-dessous du niveau élevé qui avait caractérisé tout le service de l'apôtre précédemment. Et pourtant, il avait certainement rendu témoignage de son Seigneur. Son maître plein de grâce s'arrête sur ce fait, le reconnaît et lui dit que maintenant, il fallait qu'il rende témoignage à Rome. Jérusalem, le centre religieux. Rome, le centre impérial et gouvernemental de la terre à cette époque. Quel rafraîchissement pour l'esprit de Paul. Le lendemain, plus de 40 hommes trament un complot pour tuer Paul. La nature du serment par lequel ils s'obligent atteste de la férocité de leur haine et laisse supposer qu'ils étaient d'entre les Sadducéens qui avaient été privés de leur proie la veille. Les souverains sacrificateurs se rattachaient aussi à ce parti et ils sont tout disposés à tremper dans cette affaire. ils doivent prétendre vouloir s'informer plus exactement de lui, et les 40 hommes sont prêts à le tuer. Une fois encore, la main de Dieu les contrecarre dans leur dessein. Comme toujours dans les Écritures, le récit qui nous est donné est bref et modéré. Nous apprenons que Paul avait une sœur et un neveu à Jérusalem, mais nous ne savons pas comment le jeune homme a eu vent du complot. Dieu a permis qu'il ait connaissance de cette machination, bien qu'elle n'ait été ourdie que quelques heures auparavant, et lui a aussi donné le courage de la révéler. C'est à Dieu qu'il faut attribuer le fait qu'il y ait eu un accès si facile auprès de son oncle, et que la demande de Paul au chiliarque de recevoir son neveu ait été accordée avec tant de courtoisie. Mais il est fort probable que la conduite outrageuse des Juifs a opéré en faveur de Paul dans l'esprit du chiliarque. Ainsi, non seulement il écoute le jeune homme, mais il le croit sans hésitation et prend immédiatement des mesures pour faire échouer le complot. La fin du chapitre nous donne un aperçu de l'efficacité du système militaire romain. Le chiliarque agit avec la plus grande rapidité en décidant d'envoyer Paul au gouverneur civil à Césarée. Il veille aussi à ne prendre aucun risque. Il connaissait la fureur vindicative des Juifs lorsque des affaires touchant leur religion étaient en jeu. Il ne commet ainsi pas l'erreur de sous-estimer le danger. La troupe qui prend Paul en charge devait pratiquement compter 500 hommes, une proportion de 12 soldats pour un assassin présumé. Le prisonnier est traité avec tous les égards, puisque même des montures sont mises à sa disposition.